Chers frères et sœurs et chers amis, ce matin, nous continuons la deuxième série concernant la guérison. Nous en sommes à l'étude numéro 21 et le titre sera « Les miracles du Nouveau Testament ». Il est évident pour notre petite étude sur les guérisons miraculeuses, car aujourd'hui ce sera une petite étude, que l'Église ne peut pas établir le bien fondé d'une affirmation se passant de guérison médicale en raison de pouvoirs miraculeux transmis par Jésus-Christ. Cela signifie simplement ceci, que les miracles des évangiles et des actes sont d'une catégorie totalement différente de la guérison non médicale si elle est pratiquée avec ou sans l'Église. J'ai bien entendu voulu parler des actes des apôtres. Au premier plan, nous constatons qu'ils étaient pour la plupart des guérisons immédiates telles qu'ils se présentent si peu souvent, sauf dans les cas de rétablissement spontané. Alors de plus, les miracles du Nouveau Testament étaient dans tellement de cas en dehors du domaine dans lequel la guérison divine à venir avait cherché à opérer. Ils incluent l'exaltation de la mort, le recouvrement de l'ouïe pour une personne gravement sourde, et quel guérisseur ou médecin dans son office serait prêt à travailler avec une collection de patients qu'un autre praticien aurait qualifié un homme né aveugle, un épileptique, un muet, une femme avec une grave déformation de la colonne vertébrale, un homme avec une ancienne paralysie infantile qui lui aurait causé la perte d'un bras, deux ou trois personnes totalement sourdes, un paralytique de 38 ans se levant et un couple de fous furieux. Les handicapés moteurs, les simples d'esprit et les infirmes peuvent faire confiance au Christ pour qu'il fasse tout. Les miracles du Nouveau Testament trouvent évidemment leur explication dans la personne du Christ lui-même. Les miracles du Seigneur étaient comme le tintement de la grande cloche de l'univers pour attirer l'attention sur les sermons qu'il fallait suivre, d'abord écouter et puis suivre. Et ce sermon n'était pas la bonne nouvelle de la guérison physique simplement, ou de tous, mais c'était l'évangile du salut de l'homme en entier. C'était la vie éternelle et, évidemment, l'Église. L'Église, pour continuer son sacerdoce de rédemption. Ça vaudrait la peine de répéter ce passage. Je dis donc, les miracles du Seigneur étaient comme le tintement de la grande cloche de l'univers pour attirer l'attention sur les sermons qu'il fallait suivre. Et ce sermon n'était pas la bonne nouvelle de la guérison physique de tous, mais c'était l'évangile du salut de l'homme. C'était la vie éternelle. Et c'était la vie éternelle pour continuer son sacerdoce de rédemption. Le Sauveur lui-même termine ses signes de miracle pour trouver son identité en tant que Messie attendu ou le Christ de Dieu. Et il lègue son pouvoir d'agir à ses apôtres. Et oui, et c'est ce que a fait l'apôtre Paul quand il remarqua la disparition graduelle des dons charismatiques de l'Église listés dans les conclusions des 1 Corinthiens, chapitre 12, les miracles, les dons de guérison, les prophéties, comme le meilleur et comme le plus conforme des dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire le don, tout simplement, de l'amour. Nous sommes maintenant dans une position pour examiner à nouveau, avec un esprit impartial, la charge que notre Seigneur a donnée à l'Église pour soigner la maladie et la fonction spéciale de l'Église dans le sacerdoce de la guérison divine. À deux endroits de l'évangile de saint Matthieu, chapitre 4, verset 23, et au chapitre 9, verset 35, il est précisé que Jésus est allé dans toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans les synagogues et prêcher l'évangile du royaume et soigner toutes les maladies et tous les maux. Une telle répétition montre que l'évangéliste est ici tiré du plus ancien des catéchismes, regroupé par les apôtres eux-mêmes, et cela pour décrire la mission de leur maître. Cette mission était en fait de rechercher et de sauver l'homme dans son ensemble. L'esprit en enseignant, l'âme en prêchant et le corps en le soignant. Et de la même façon, le don de notre Seigneur à l'Église, c'était le salut de l'homme, le salut de l'homme dans son ensemble. L'Église devait donc être le prolongement de l'incarnation, le corps du Christ venant pour faire le bien. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Alors, qu'est-ce qu'un homme ? Les psychologues enseignent que l'homme est un amalgame de corps, d'esprit et d'âme très compliqué et interactif, et il est maintenant reconnu que la guérison ne peut pas seulement se confiner dans le fait de soigner la maladie. Il s'agit de rendre à l'homme tout entier, la personne, et oui, Jésus-Christ. La définition la plus vraie de la santé, c'est l'intégralité, même s'il y a une déformation du mot. La guérison est en fait considérée comme étant la restauration de l'intégralité, ce qui inclut donc l'esprit et l'âme autant que le corps. De plus, il est presque totalement reconnu que la coopération du médecin, du psychiatre et du pasteur est recommandée dans ce sacerdoce chrétien de la rédemption humaine ou du recouvrement de l'intégralité. À partir de cela, suit ceci. D'un côté, le médecin et le psychiatre sont inclus dans le don de notre Seigneur à l'Église pour guérir le malade. De l'autre côté, la profession médicale devrait plus souvent faire appel au pasteur ou au prêtre de la paroisse, et pourquoi pas aussi aux aumôniers. Comme le souligne le récent mémorandum sur la guérison divine, le travail d'équipe entre médecins et hommes du clergé peut aider à découvrir tous les besoins du patient. Le besoin pour une telle coopération serait évident si la maladie était divisée en trois catégories: le désordre psychosomatique, les désordres organiques et les soi-disant cas désespérés. Nous cherchons à savoir jusqu'à quel point la guérison spirituelle peut contribuer à la guérison du souffrant en tant que personne et non pas en tant que cas. Voyez-vous, chers amis, tout d'abord, nous avons le désordre psychosomatique. Comme son nom l'indique, le désordre psychosomatique tient ses origines dans l'esprit de l'homme. Les ulcères duodénaux sont invariablement dus à l'inquiétude. Certaines formes de rhumatisme peuvent parfois être occasionnées par une indication nerveuse due à l'anxiété. De ce fait, le fondement du désordre se trouve dans le domaine de l'esprit. Donc, c'est aussi à cet endroit que se trouve la restauration de l'ordre et de l'intégralité. De tels patients peuvent bien sûr être soignés par la psychothérapie d'une façon très satisfaisante, mais un récent article paru dans Freud et Religion confesse que tous les psychothérapeutes reconnaissent que même après une analyse complète et faite avec succès, le sujet ne peut que compter sur ses ressources individuelles. Et dans les faits, cela n'est pas toujours suffisant. C'est aussi le professeur Jung, dans son livre « L'homme et la recherche » ou « À la recherche d'une âme ». Il déclare, Jung, que parmi tous ses patients, dans la seconde partie de leur vie, c'est-à-dire après 35 ans, il n'y en avait pas un dont le problème en dernier ressort n'était pas de trouver des perspectives religieuses dans leur vie. On peut dire, sans aucun doute, que chacun d'entre eux est tombé malade parce qu'il avait perdu ce que les religions actuelles et de tout âge ont donné à leurs croyants. Poursuivons un peu en essayant de définir quelle part de la guérison divine joue vraiment dans les cas de désordre organique. Dans toute maladie, le principal obstacle est la peur. Avec une telle anxiété mentale, la guérison divine est directement concernée. Le but primordial de la guérison divine est d'apporter aux souffrants une confiance et une certaine sagesse, le pouvoir et l'amour de Dieu, notre Père, qui apporte le bien partout. Et une telle confiance en Dieu éloigne la peur et l'anxiété de l'esprit, et une fois que l'homme de Dieu a banni toute peur ensorcelante, alors la restauration du corps, elle est enfin en bonne voie. Car en effet, quand l'esprit de l'homme est en union consciente et tranquille avec Dieu, il n'y a plus de limite pour que le pouvoir de guérison se déclenche et imprègne chaque cellule du corps de la personne qui souffre pour le guérir en très peu de temps. Pourtant, il y a une qualification très importante. Si Dieu le veut, je répète, si Dieu le veut, ce qui est inhérent à la croyance en un Dieu qui est sagesse, pouvoir et amour. L'amour de Dieu est profondément concerné pour le meilleur bien-être de l'homme tout entier, de la personne et de chacun de ses enfants, pas seulement pour le repos du corps. Le pouvoir de Dieu est capable et de soigner et de sauver et de permettre l'extrême. Mais la sagesse de Dieu doit savoir, comme nous devons aussi savoir, que même si l'or est raffiné dans le feu, alors un être immortel peut se sentir mieux grâce à l'influence et à une responsabilité spéciale dans la vie réelle si les désordres du corps restent incurables. Les Saintes Écritures ne donnent pas de garantie dans l'hypothèse où un Dieu d'amour ne peut pas vouloir, je dis bien, ne peut pas vouloir la souffrance pour ses enfants, et par conséquent, la seule chose nécessaire pour être guéri totalement dans tous les cas est la foi de la part du patient ou du pasteur ou des amis du patient ou encore de l'Église. La foi est la réponse la plus efficace dans la vie pour aborder le mystérieux problème du mal dans le monde de Dieu. La première des trois prières de l'agonie dans le jardin est une supplique, rappelez-vous. Laisse cette coupe venir à moi. La deuxième prière est une résignation. Si cette coupe ne vient pas à moi, même si je la bois, que cela soit fait. Puis la troisième prière devient une acceptation triomphante, avec le Sauveur marchant à ses côtés, pleurant. La coupe que mon Père m'a donnée, dois-je la boire ? De plus, même si notre Père n'avait pas voulu la croix pour son Fils bien-aimé, déjà il rejeta cette perversité honteuse pour le salut du monde. Donc, il peut aussi rejeter la souffrance, ce qu'il n'a jamais voulu, pour le plus grand bonheur de tous les gens qui souffrent sur cette terre et pour promouvoir l'honneur, et on peut dire l'honneur, la vie, dans un monde à venir. Voyez-vous, nous vivons dans un monde où le mal et l'insécurité règnent que seule une chute pré-cosmique peut partiellement expliquer. Mais le but primordial de Dieu, c'est la santé et le bonheur de la race humaine. Il ne désire pas nous voir gémir, souffrir le martyr et être vraiment dans des états épouvantables, on peut dire comme si quelqu'un voulait nous martyriser. Il a un second but qui est de rejeter la souffrance pour la rédemption du monde. Et dans cette rédemption en cours, les gens qui souffrent sont appelés à trouver par eux-mêmes avec le Christ, selon la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 13, même si l'apôtre Paul était réjoui d'être dans un certain sens, mystérieusement rempli de ce qui manquait d'affliction du Christ. Donc, on voit bien que saint Paul se réjouissait d'être dans un certain sens, on peut dire mystérieusement rempli de ce qui manquait d'affliction de Jésus-Christ. Et vous pouvez retrouver cela dans Colossiens, chapitre 1, verset 24. Chers amis, nous avons également la guérison divine et les cas désespérés. En fait, dans cette catégorie, j'inclus les cas où la guérison divine a effectué une guérison ou un allègement de la douleur, et cela au-delà du domaine ou des connaissances de la médecine, comme il est fait manifeste par l'incarnation, la sagesse, le pouvoir et l'amour de Dieu peut intervenir pour la guérison totale et miraculeuse du corps. Pourquoi est-ce que c'est au bon plaisir de Dieu d'intervenir dans certains cas et pas dans d'autres? Ça, c'est un problème déconcertant, un problème qui nous donne beaucoup à réfléchir, qui dépasse également nos connaissances. Toute préparation pour la guérison divine doit commencer par une explication claire que la restauration du corps, elle n'est pas toujours la réponse de Dieu aux prières de la personnalité tout entière, ni le premier but de placer le souffrant dans une communion consciente avec le Seigneur de la sagesse, le Seigneur du pouvoir et de l'amour. De plus, il est totalement faux de supposer que l'échec de la guérison est dû au manque de foi. L'intervention de Dieu en réponse aux prières ne dépend pas entièrement sur la foi du patient, et il est cruel pour la personne qui impose les mains ou ceux qui prient pour le malade de remuer le couteau dans la plaie en reprochant et en attribuant la non-guérison au manque de foi. Comme l'intervention de Dieu ne dépend pas de la foi de l'instrument qui prie, il est clair que l'imposition des mains et la sainte onction sont sacrées en caractère, mais le pasteur ou le prêtre est seulement un agent qui, on peut bien le dire, convoie le pouvoir de guérison de Dieu. Je répète parce que c'est important. Comme l'intervention de Dieu ne dépend pas uniquement de la foi de l'instrument qui prie et ou qui fait l'imposition des mains ou qui applique la sainte onction. Ces choses-là sont absolument sacrées en caractère. Mais le pasteur, il n'est pas autre chose qu'un agent. Un agent qu'on voit, qui applique le pouvoir de guérison de Dieu. Dans le même temps, certains pasteurs qui font aussi les impositions des mains sont plus doués que d'autres pour communiquer dans le sens de l'amour et dans la présence de Dieu aux souffrants en les plaçant dans un état de conscience et de consentement pour aller dans les bras de l'éternel refuge. Et cela est absolument une réalité, car nous sommes tous différents et certains instruments, que ce soit un homme ou une femme, ont reçu quelque chose que l'autre n'a peut-être pas reçu de la même manière. Et pour un certain malade, ce sera peut-être cet instrument-là qui conviendra le mieux par rapport à un autre instrument. Je veux dire par là, par une autre personne qui prie ou qui fait l'imposition des mains. Dans les Éphésiens au chapitre 4 et dans les Corinthiens au chapitre 13, l'apôtre Paul explique la diversité des dons de Dieu à toute son Église. Aussi loin que la foi a mystérieusement qualifié l'intervention de Dieu d'être vraie, c'est la foi de l'Église toute entière qui offre à Dieu la coopération humaine, ce qui est essentiel, on peut bien dire, s'il doit faire des miracles et guérir. Évidemment, ce n'est pas nous qui faisons les miracles, on a bien compris, c'est le Seigneur qui les fait et qui guérit. Nous sommes que ses instruments, n'oublions jamais cela. Donc, l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Et Dieu ne fera rien sans l'homme. L'illustration de l'Évangile au sujet de la coopération de l'Église et la guérison de cet homme paralysé qui, animé par la foi, a été amené dans son lit, rappelez-vous, par des amis et qui l'ont déposé aux pieds du Sauveur après avoir traversé une foule immense de Capernaum, selon saint Marc, chapitre 2, verset 1 à 12. Il y a cette qualification essentielle de la prière de la foi qui sauve le malade, selon Jacques, chapitre 5, verset 15. Il est donc important de reconnaître la différence entre magique et la foi. Magique, c'est de chercher à transformer la volonté de Dieu en volonté humaine. Je répète, le côté magique, c'est de chercher à transformer la volonté de Dieu en volonté humaine. Par contre, la foi, c'est de transformer nos volontés en volonté de Dieu. La prière de la foi, de plus, ne doit jamais être considérée comme la volonté de Dieu pour agir sur le miracle après la manière des d'après la manière des prêtre de Baal du Mont Carmel, car c'est ça qu'il faut que nous puissions nous rappeler. Je répète donc, la prière de la foi de plus ne devrait jamais être considérée comme étant la volonté de Dieu pour agir sur le miracle selon la manière des prêtres de Baal au Mont Carmel. Beaucoup mieux, c'est de chercher à coopérer avec Dieu en accord avec ses buts de sagesse, de pouvoir et d'amour. Et pour ce sacerdoce de guérison, l'Église doit plus particulièrement mobiliser sa grande armée d'invalides et ses invalides de toutes sortes, leur demandant de prier en les tenant informés du moment auquel ils pourront coopérer dans leur propre maison ou appartement ou dans des chambres de malades. Finalement, il y a ce sujet controversé des services de guérison. L'expérience montre le danger des grandes réunions de guérison qui tous, sans exception, reçoivent une invitation générale sans aucune préparation nécessaire à toute souffrance. Car la grande émotion et hystérie parfois qui s'en dégage peut être très malsain. D'un autre côté, beaucoup ont prouvé la valeur d'un groupe d'intercesseurs qui se rencontrent uniquement pour la prière. Et cela permet aux intercesseurs d'être sur le terrain ou aux côtés du lit et de se tenir avec le Christ près du lit. Croire cela est très important et à cet instant précis, le Christ entre dans la vie de la personne qui souffre. Et c'est alors il peut, le Seigneur, travailler dans une atmosphère de foi et d'amour. Les résultats sont relativement remarquables, même si les effets sur le corps ne sont pas toujours visibles. Une autre pratique est d'imposer les mains sur un ou plusieurs patients qui ont été préalablement préparés, je dis bien préparés et non pas une quantité à la fois sans aucune préparation, qui ont été préparés lors de réunions à l'église. Et c'est donc dans cet esprit que le sacerdoce de la guérison divine agit quand l'humble Église cherche à explorer les richesses miraculeuses et miséricordieuses de la sagesse, du pouvoir et de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Père céleste. Chers amis, j'ai dit que c'était une courte étude, et c'est vrai, et je pense que elle peut aider plusieurs personnes. Ça, j'en suis absolument sûr. Prions donc maintenant ensemble, si vous le voulez bien. Tout simplement, nous allons prier. Oui, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie tes lois et tes promesses se réaliser. Ouvre les fenêtres de mon âme pour voir les richesses des cieux, les richesses des cieux étalées devant moi. Donne-moi la vue pour voir et connaître ta bonté perfectionnée en moi et de la saisir avec la main de la foi. Ouvre mon cœur pour laisser entrer la chaleur de ton amour guérissant pour qu'il suive pleinement son cours en moi. Car je me suis rappelé tes jugements éternels et j'ai reçu de la force aussi, je n'oublierai jamais tes commandements, car tu m'as donné la vie par eux. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à demain matin, la suite de cette série. À bientôt donc. Au revoir, très chers amis.